Lucien, mon petit, je voudrais pas te paraître vieux jeune et encore moins grossier. L'homme de la pampa, parfois rude, reste toujours courtois, mais la vérité m'oblige à te le dire, ton Antoine commence à me les briser, melu.
Alors, il dort le gros con? Il dormira encore mieux quand il aura pris ça dans la gueule. Il entendra chanter les anges, le gugus de Montauban. Je vais le renvoyer tout droit à la maison mère, au terminus des prétentieux.
La femme est-elle l'avenir de l'homme ? Jean Ferrat nous l'affirmait en chanson en 1975. Cette année-là, Simone Veil faisait adopter par une assemblée nationale à majorité masculine la loi sur l'interruption volontaire de grossesse. L'avenir de l'homme est-elle la femme ? En 1963, Aragon en était persuadé. Qu'en est-il 50 ans après le manifeste de 343 femmes déclarant avoir avorté alors que c'était illégal? Certes, du chemin a été parcouru, mais force est de constater que s'il existe encore une journée internationale des droits de la femme le 8 mars, c'est bien la preuve que le combat pour l'égalité des sexes est loin d'être terminé. Dans certains pays, dont certains soi-disant démocratiques, Malte, la Pologne, Monaco, Andorre ou Saint-Marin, et dans les autres, où la religion influe directement sur la justice et les lois, les femmes ne sont pas libres de faire ce qu'elles veulent de leur corps. En France, entre 3500 et 5000 femmes vont avorter à l'étranger, encore aujourd'hui, parce que les députés n'ont pas voulu prolonger le délai légal de recours de l'IVG à 14 semaines. En musique, le déséquilibre est flagrant. Pourquoi les hommes trustent-ils les premières places des passages sur les ondes des télés et des radios? Combien d'artistes féminins sont venus nous voir depuis plus de 20 ans? Pourquoi une seule journée leur est consacrée sur Radio B? Il est temps d'équilibrer les comptes. Au terminus des prétentieux, 960e amer constat ce soir a fait beaucoup d'efforts depuis juillet 2013. Hello Papillon, Karine Davier, Wendy Martinez, vous ne les connaissiez pas, vous ne les connaissez pas. Sur le 90.0 de Radio B, il est temps de faire votre mea culpa. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Terminus des Prétentieux, tous les jeudis de 17h ce soir, troisième confinement oblige, pour une émission placée, pour une émission placée sous le signe du voyage, une fois de plus, hein, nous allons partir en tournée, à travers un temps que les moins de 46 ans n'ont pas connu, enfin j'ai compté 46, hein, je ne sais pas pourquoi, un monde où il faisait bon vivre hein, malgré une pandémie de niveau 2, celle de 68, appelée grippe de Hong Kong. La culture avait droit de cité et les concerts, mythiques ou pas, se succédaient à un rythme infernal. Le monde bougeait et le mot liberté avait un sens. La discrimination en prenait un grand coup, les femmes commençaient à s'émanciper, le pacifisme n'était pas qu'un idéal. Et dans tout ce foisonnement d'idées et de révolutions, la musique s'en donnait à cœur joie. Le rock devenait sauvage, la pop psyché et la chanson française de Gainsbourg s'éloignaient dangereusement de la variété de l'époque. 46 ans plus tard, une artiste lyonnaise avait envie de se replonger dans ces années folles et créatrices. Nostalgique, sans doute. Ringarde, sûrement pas. Son premier EP, La Chevauchée électrique, nous rappelle que la musique...
T'as failli dire autre chose.
Non. Non, ringarde, sûrement pas.
Non. La Chevauchée...
Électrique.
Oui, mais
je dis quoi? Fantastique?
Je pense que tu allais dire fantastique, mais tu t'es rattrapé au dernier moment.
Ah, bah ça, c'est inconscience. Hein. Mm-hmm. Donc, son premier EP, La Chevauchée électrique, nous rappelle que la musique est un éternel recommencement et, si l'esprit demeure, la modernité est plus que jamais au rendez-vous. Ce soir, elle nous fera voyager à travers son temps et c'est avec un plaisir non dissimulé, dissimulé, c'est mieux, que nous accueillons dans les studios de Radio B l'artiste lyonnaise Wendy Martinez. Wendy, bonsoir.
Bonsoir à tous et à toutes.
Alors Wendy n'est pas un prénom espagnol, contrairement à ton nom de famille. Ah, ton nom de scène est un nom d'emprunt ou tu es une compatriote, Antonio?
Et je suis vraiment une Wendy Martinez en tous les cas.
Ah ouais?
Ouais, malheureusement.
Pourquoi malheureusement?
Non, c'est très bien au final parce que j'ai un pseudo sans avoir à en chercher un.
Ah ouais?
Ouais.
D'accord.
J'ai pas eu besoin de chercher un nom d'emprunt. J'avais déjà un nom tellement particulier à toute mon enfance et toute ma vie que je suis restée sur ce nom-là.
D'accord. Bien. Bon. Bien, allez, tu seras avec nous jusqu'à 18h à peu près. Et nous découvrirons ensemble ton premier EP, 6 titres, La Chevauchée électrique, paru le 26 mars 2021, sur 3 labels, rien que ça. Le Pop Club Records, Belka et Outré. Quand je parle de ton premier 6 titres, sous ton nom.
Tout à fait.
Sous le nom de Wendy Martinez.
Oui.
Ah, parce que me semblait que tu t'interrogeais là, alors que tu dis, bah, tiens, il n'est pas au courant que j'ai fait quelque chose avec eux. Avec Bye Bye Dubaï. Mais, voilà, alors que c'est pas...
Il sait tout.
Attention voilà,
là,
avec lui. Ouais,
ouais. Mais là, c'est pas compliqué. Là,
il a enquêté.
Bah, oui, j'ai fait mon
ton travail, mon travail d'animateur.
Mon travail d'animateur radio. Ah, voilà. Voilà. À tes côtés, je te présente un de tes compatriotes.
Magnifique.
Donc, c'est la première fois que le fils de Rodrigo rencontre la fille de Martine.
Magnifique.
Il ne savait pas que Martine.
Rodriguez.
Rodriguez.
Ouais. Ah, portugais.
Ah, bon, non, pas.
Oh là, oh là, oh là.
Mais j'ai cru, comme tu l'as dit.
Attention.
J'ai dit Rodriguez.
Ah.
Ah oui, non, mais c'est. Tu vois. Va pas nous fâcher ce soir. Oh là là. Non,
moi,
non.
J'ai des origines portugaises, donc ça m'aurait fait bien plaisir. En fait.
Martinez, c'est pas portugais.
Non, c'est pas portugais, parce que c'est du côté de mon père, mais du côté de ma mère, il y a bien du portugais.
Ah oui, mais bon.
Ah, c'est une moite-moite.
Ouais.
Ah, bah voilà, bah, on sait tout maintenant.
Plus que moite-moite, en plus. Ah. Ouais, ouais, non, il y a beaucoup d'autres origines.
Bon.
Non, mais par rapport à papa et maman, quoi.
Ouais.
Bah, c'est
ouais.
Pas mal. Alors, il ne savait pas que Martine avait une fille et qu'elle s'appelait Wendy.
Voilà.
Tu vois voilà, ouais.
Pourtant, il se souvient très bien de Peter Pan. Te persuadera-t-il de le suivre jusqu'au pays imaginaire? Le sien, c'est le requin-dé.
Ça me plaît. Ouais.
Contrairement aux vieilles filles en fleurs, mon aviateur te propose à l'aube une chevauchée électrique. Kilomètre zéro indique l'écran triste. Hein? Ah oui. Mince, il a oublié de recharger son vélo. Tant pis pour le requin-dé, hein, et vive la pop psyché. Hein, ouais, Tonio, bonsoir.
Salut Michel, salut Wendy, salut
enchanté.
À tous. Bah de même. Donc, bah, t'as tout dit, hein, Michel. Hein.
Ah bon
bah, j'en rajoute pas, ça sert à rien.
Non
hein. Puis comme ça, on va directement
au morceau culte. Qui va faire plaisir
à
Wendy.
On y va.
Oh, Superman. Pay as you go.
okay, who is this really? And the voice said, this is the hand.
Thank you.
connaît Laura... Laurie. Non, qui connaît Laura Anderson. Si je vous dis Laurie Anderson, je ne suis pas sûr que cela éclairera votre lanterne, même magique. Celle qui fut la compagne de longue date de Lou Reed, jusqu'à la disparition de ce dernier en 2013, a certes connu un début de succès avec « Oh Superman », le morceau culte de ce soir, un engagement politique contre la gouvernance de Ronald Reagan, et il y avait de quoi. Qualifiée d'artiste d'avant-garde, l'Américaine avait sorti en 1982 un album intitulé « Big Science ». Ouais, c'est français. Ouais. Oui. « Big Science », en anglais, yes. Pardon.
Ah, c'est mieux comme ça. Si tu veux nous entendre, c'est mieux.
J'étais persuadé d'avoir appuyé sur le bouton. Je me suis dit, ah, c'est bizarre, aucune réaction. Bon, voilà. Allez. Donc, Big Science.
Oui, Big Science.
Yeah. Donc, une sélection des temps forts de sa production de 8 heures, hein, United States Live, qui sortira 2 ans plus tard. Laurie Anderson travaille avec de nombreux artistes, dont Peter Gabriel, Jean-Michel Jarre, Brian Eno, Bobby McFerrin, Dave Stewart ou Lou Reed, bien évidemment. Sa musique illustre plusieurs films de Wim Wenders, dont Les ailes du désir, Jusqu'au bout du monde et Si loin, si proche. Le 19 septembre 2001, lors de son concert à New York, les paroles apocalyptiques de Oh Superman, hein, voici les avions, ce sont les des avions américains, y prennent une consonance toute particulière. En 2003, Laurie Anderson est la première artiste en résidence à la NASA, ce qui se concrétise par la performance sur scène The End of the Moon. Laurie Anderson, c'est aussi l'organisation d'un concert de klaxon en 1972. Hein, c'est pour vous dire le personnage. Un an plus tard, chaussée de patins à glace et debout sur des blocs de glace, elle joue du violon et une bande enregistrée l'accompagne. La performance se termine lorsque les blocs de glace ont fondu.
Ah voilà. Ouais.
C'est ce que Wiki dit, on peut le croire.
Oui. Hein? Bref, ça n'a pas dû fondre tout de suite. Hein?
Bah non, quand même. Non. Alors bref, si comme nous, vous ne connaissiez pas ou la confondit avec Jon Anderson, le chanteur de Yes, vous avez raté quelque chose. Si ce soir, nous vous avons proposé un morceau culte de 8 minutes 20, hein, c'est tout sauf un hasard. Et surtout, un morceau de Laurie Anderson, Wendy, notre invitée de ce soir. Tu déclarais il y a 4 ans sur le webzine collaboratif Musid, le choc culturel, qu'elle était, hein, Laurie Anderson, hein, je cite, « une de tes influences majeures que tu avais découvertes il y a une quinzaine d'années. Comment l'as-tu connue et qu'est-ce qui t'a attiré chez elle ?»
Oh,
te souviens-tu ?
Mon Dieu, je sais même plus comment.
C'est il y a 15 ans, alors.
Alors, c'était le titre au Superman, ça c'est sûr. Mais alors, qui me l'a fait découvrir, je t'avoue.
15 ans,
que...
c'était en... Ouais.
Donc, il y a 4 ans, donc c'était bientôt 20 ans, quoi.
Ouais.
Je ne sais plus du tout.
Bien.
Ouais, je ne pourrais pas répondre malheureusement à cette question, voilà. Mais c'est sûr qu'elle m'a...
Qu'est-ce qui t'a attiré chez elle ?
Elle m'a fascinée, bien sûr, je pense que c'est le côté un peu touche-à-tout qui m'a plu, c'est-à-dire que c'est à la fois une performeuse, une femme du théâtre, une musicienne, et aussi finalement quelqu'un qui porte une réflexion sur la théorie de l'art et de la musique, qui le met en scène. Donc c'est ce qu'on se disait tout à l'heure pendant qu'on l'écoutait, qu'elle avait été à la base professeure d'histoire de l'art et de sculpture, ce que je ne savais pas. Et ce qu'elle disait, c'est que ses premières performances se sont déroulées quand elle donnait des cours, en apprenant, en enseignant en fait à des élèves, et qu'elle avait déjà un rapport à son corps et à l'image en fait qui a amené ensuite ses pièces suivantes. Donc je trouve qu'elle nous parle de plein de choses en fait. C'est aussi peut-être une philosophe, c'est peut-être aussi quelqu'un qui travaille avec du surréalisme. Il y a des titres à elle où elle parle qu'en langage binaire, 0, 0, 1, I'm 0. Enfin, elle est assez, assez fabuleuse. Et ce que j'aime beaucoup, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure aussi pendant qu'on écoutait ce titre, c'est sa part d'enfant. Mm-hmm. C'est quelqu'un qui a commencé assez tard finalement à faire ses performances, qui a donc diffusé de manière confidentielle ce premier titre, au Superman. Et elle a un côté extrêmement libre, qui me plaît et qui me touche énormément. Et j'ai l'impression que c'est une, pour le coup, par rapport à ton introduction, c'est une femme artiste qui s'autosuffit, qui porte vraiment un univers très fort en elle et qui le défend et qui n'a pas besoin d'être accompagnée par un homme, être produite par quelqu'un d'autre. Elle se suffit à elle-même. Et ça, pour moi, c'est assez impressionnant. D'ailleurs, elle joue aussi sur l'androgynie, Et ça, ça me plaît également. J'aime beaucoup son costume. Je trouve que c'est une femme très belle et très féminine. Mais tous ces costumes un peu masculins me plaisent également, me parlent également.
Donc en art, toi, tu as une touche à tout, le dessin, la peinture, le théâtre, l'imitation, puis la chanson, la danse, la danse, j'en oublie sûrement. Hein. C'est facile de se consacrer à tous ces arts en même temps, facile de faire des choix.
Non, au début, ça a été une torture, moi, de me dire que je pourrais pas faire tout ça en même temps. Et finalement, j'ai réalisé que la musique était peut-être le moyen privilégié pour moi de tout concilier. Parce que finalement, si je réalise, comme depuis peu, mes clips, je réalise que dedans, il va falloir penser à une forme d'image théâtrale, une forme de scénarisation. Il va falloir penser à un décor, à un costume. Ça aussi, j'aime énormément le concevoir, même si c'est de bric et de broc et totalement DIY. Il va falloir également peut-être penser du mouvement de corps, même quand on est sur scène aussi, penser à de la danse. Il va falloir faire des visuels. Waouh, je me régale, je vais pouvoir prendre mes pinceaux à nouveau et peindre quelque chose ou dessiner quelque chose. En fait, tout va être prétexte à dégainer une autre discipline.
Alors, en musique et en chanson, on pourrait parler de chevaucher éclectique, sans parler de tes influences, la palette d'écoute et d'influence est très vaste, de Gwenaëlle à Laurie Anderson, en passant par Patti Smith et Brigitte Fontaine. On peut même parler d'une certaine folie artistique, ce côté avant-gardiste, hors norme, décalé. Cette différence, tu la cultives depuis toujours, j'ai l'impression.
Je dois dire que j'ai grandi dans une famille assez libre de ce point de vue-là, c'est-à-dire assez curieuse, qui m'a initiée aussi à la curiosité, qui m'a fait découvrir plein de choses. J'écoutais du Magma avec mon père, enfin sans comprendre du tout, et au début en détestant absolument Magma quand j'étais petite. Je ne comprenais absolument pas. On écoutait du David Bowie, du Patti Smith, du Léo Ferré en même temps, et même s'il y avait ces artistes un peu spéciaux, on m'a toujours enseigné le fait de ne jamais critiquer totalement, de jamais dire ça c'est de la merde, mais de dire je n'aime pas en fait, et juste de cultiver son propre goût et son indépendance. Donc c'est peut-être quelque chose de familial ça. Et aussi quand j'ai commencé peut-être à dessiner, à écrire quand j'étais petite, parce qu'effectivement j'ai commencé d'abord par du dessin et ensuite par de l'écriture avant de me mettre plus sérieusement à la musique. Je sais qu'on m'a toujours dit, sois original, sois toi-même, qu'est-ce que toi tu veux dire, n'essaie pas de ressembler aux autres, et ça m'a bien marqué.
D'accord. T'arrives pas à dire, ça c'est de la merde?
Non.
Même quand ça en est?
Non, parce que à partir du moment où ça va toucher plein de gens,
Penses à quelqu'un en particulier?
Non.
Non, parce que j'ai ce respect des goûts et je me dis, il y a plein de gens qui vont adorer, certaines choses que moi je n'aime pas, voire que je déteste, mais j'ai pas envie de leur enlever leur goût et j'ai pas envie de les convaincre que c'est nul en fait. Et moi je peux être touchée par des choses, tu vois, on parlait de Richard Gottener, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui riraient en sachant cette influence, mais j'aime bien l'idée qu'on puisse être libre en tout cas d'aimer ce qu'on veut totalement, qu'un enfant quand il grandit, parfois il va passer par des trucs complètement variettes, très commerciaux, mais c'est aussi comme ça qu'il se sent bien, c'est avec ce titre. Moi, par exemple, j'adore Michael Jackson, je dois bien le dire. Thriller, j'aime pas tous les titres, mais il y a des titres que je trouve extraordinaires et qui me font danser dans ma salle de bain. Voilà. Et je sais qu'il y a des gens qui diront, bon, c'est trop commercial. Moi, j'aime toujours beaucoup.
Ouais, pour Gottener, ceux qui disent que c'est pas bien, ceux qui l'ont jamais écouté, non ?
Ouais. Y aurait des gens aussi qui, d'un point de vue peut-être politique, diraient, oui, il a fait de la pub beaucoup, c'était quelqu'un peut-être... qui a travaillé pour des marques, mais il a une inventivité qui est tellement géniale. Et encore une fois, proche de l'enfant qui était en lui, je trouve ça génial. Bon, je pense qu'il y a des gens qui ont écouté et qui n'aiment toujours pas le Yuki. Faut adhérer ou pas. Tu aimes ou tu n'aimes pas le Yuki.
Ouais. Après, il ne faut pas s'arrêter au Yuki quand même.
Non,
c'est comme Nino Ferrer, il ne faut pas s'arrêter au cornichon. Quoi.
Oui, c'est vrai.
Ou Gainsbourg, je ne sais pas.
Les sucettes à la Nice.
Ouais, moi, je pensais plutôt à sa période de fin, quoi, les années 80.
Ouais, les Gainsbourg, ouais.
Non, bien après, vraiment à la fin, quoi. C'est peut-être artistiquement moins intéressant, je sais pas. Bon, bien, allez, il est temps de reprendre l'avion.
Allez, en route.
Allez, direction Radio B.
Décollage.
Au revoir Dubaï et bienvenue au Terminus des Prétentieux. Eh bien, 17h passé de 26 minutes sur les 90.0 de Radio B. Voilà, Antonio.
Voilà, vous écoutez l'habituelle rediffusion du vendredi matin si vous êtes avec nous depuis 9h ou la rediffusion du samedi 14h.
Ce soir, nous accueillons la Lyonnaise Wendy Martinez qui vient nous présenter son premier EP sous son nom, Wendy Martinez, hein, la chevauchée électrique, électrique, paru le 26 mars 2021. Alexis Morel nous avait avoué le 11 mars dernier que tu étais une grande voyageuse. De la Haute-Savoie au Rhône, la chevauchée ne fut pas qu'électrique. On est loin du kilomètre zéro. Où as-tu connu tes premiers émois artistiques?
Du coup, je suis arrivée en Haute-Savoie à 6 ans, 7 ans. Et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai découvert Richard Gottener, dont j'étais une immense fan. On va peut-être pas parler de Richard Gottener tout le long, mais c'est vrai que je l'ai beaucoup aimé. Et puis à la maison, on avait des petits synthés assez rigolos. On adorait avec mon frère faire une sorte de petite techno avec. On accélérait les petites rythmiques à fond et puis on chantait n'importe quoi dessus. Et puis d'ailleurs, c'est marrant parce qu'Alexis a le même synthé chez lui, donc ça a été un grand moment d'émotion que de redécouvrir ça. Et puis plus tard, donc je suis restée en Haute-Savoie jusqu'à mes 17 ans et vers 16 ans, j'avais besoin de chanter en fait, j'arrêtais pas de chanter dans tous les sens et puis j'ai croisé une copine qui faisait de la guitare et qui avait envie de monter quelque chose, donc on a fait une sorte de grunge, rock.
Ouais, du métal, ouais.
Ouais, on a fait du métal.
Ouais, c'est vrai. Mais il n'y a pas de honte.
Voilà, j'ai commencé donc par crier, avant de savoir chanter. Mais c'était marrant, hein, c'était voilà. Super.
Un début à tout.
Ouais, c'est une grande expérience.
Et après les voyages ont fait la différence, les voyages ont... Parce que t'es une grande voyageuse. Quand t'es grande voyageuse,
bon, j'ai pas tellement voyagé.
Tu as voyagé, enfin, tu as, oui,
j'aime en tout peu. Cas, j'aime voyager
un
si je pouvais. Ouais, je suis partie au Mexique.
Apprendre l'espagnol.
Apprendre l'espagnol, ouais. Bah, j'avais un copain mexicain qui m'a dit, toi avec tes yeux bleus et tes cheveux blonds, parce que pour lui je suis blonde, tu te feras emmerder. Ils penseront tous que t'es américaine, donc il faut que t'apprennes l'espagnol à partir de maintenant. Donc il m'a enseigné l'espagnol de manière ultra violente et j'ai appris en une semaine, c'était extrêmement, extrêmement dur. J'en ai fait des cauchemars et des sueurs, mais après je parlais espagnol. En tout cas, je me faisais comprendre un minimum.
Donc c'est essentiel.
J'ai vécu un an à Berlin, j'ai beaucoup aimé. C'est peut-être là-bas que j'ai rencontré Laurie Anderson. Je me demande, tiens, si c'est pas à Berlin que je l'aurais écouté pour la première fois. Donc ça, c'était, mes 18-19 ans, j'avais fait un an là-bas, j'ai adoré, j'ai failli rester, j'ai failli pas mourir, mais j'ai failli rester à Berlin.
T'es allée au Québec aussi, non ?
Je suis allée au Québec, ouais. J'ai la chance d'avoir une amie qui vivait aux îles de la Madeleine, donc une toute petite île, et qui m'a invitée là-bas en me disant « Tu viendras jamais si je le fais pas », et qui m'a invitée à venir 15 jours, donc c'était le bonheur. En fait, je vais souvent suivre des amitiés aussi, finalement. Ces voyages sont souvent inspirés par des gens qui sont sur place, notamment la Jordanie également. J'avais une... où j'ai filmé... le clip L'Aube, enfin où des amis à moi ont filmé le clip L'Aube sur leur portable, sur ma demande. Pareil, j'avais une amie qui vivait là-bas pendant un an, donc on est allé la visiter, c'était le bonheur, j'ai adoré.
Bon, l'Inde jamais ?
L'Inde pas encore, non. D'accord, non. Ouais. Non. Donc, il reste énormément de coins à voir.
Est-ce que c'est tes voyages qui t'ont construit tant, humainement, d'accord, mais artistiquement aussi ? Pas forcément ?
C'est sûr que... Ça vient rejoindre aussi l'idée d'une curiosité. Moi, j'adore parler d'autres langues. J'adore ça. Enfin, apprendre l'espagnol, même si ça a été dur la première semaine, c'est un délice pour moi que de parler avec d'autres gens. Et effectivement, de voir aussi et de me confronter à d'autres manières de penser, parce que la pensée au Mexique et la pensée française n'ont absolument rien à voir, ne serait-ce que par rapport au temps. Ça m'a marqué. Par exemple, si on prenait juste un exemple, le rapport au temps mexicain et le rapport au temps français n'ont rien à voir au Mexique. On va dire « nos vemos ahorita », on va se voir dans un petit maintenant. Ce qui n'a pour nous aucun sens. Enfin, quand ce petit maintenant, dans 5 minutes, dans 15 minutes, j'ai mon agenda, j'ai mon planning, il faut que je me dépêche, etc. Et eux, ils disent, ahorita, on verra, en fait. On laisse faire, on laisse couler un peu plus. Ça, pour moi, c'était délicieux. Et alors, c'est vrai que quand même, je dois bien dire que c'est lors de mon voyage au Mexique que j'ai décidé que j'allais faire de la musique, essentiellement. Parce que je faisais plein de boulot, on en a parlé un petit peu avant l'émission, j'ai fait énormément de métiers différents. Et donc je suis partie au Mexique à 25 ans, donc peut-être que c'était un peu mon voyage initiatique. Et c'est vrai que c'est là-bas que je me suis dit, non mais c'est trop important pour moi, j'ai vraiment besoin d'en faire plus régulièrement, que ça ait une place principale dans ma vie. Et j'avais embarqué, donc ça a été tout le premier point de mon voyage qui était... d'abord chez un ami et puis ensuite seul, j'ai embarqué, j'ai mon premier petit synthé tout pourri que j'ai acheté je sais pas combien de pesos là-bas. Donc j'ai dû rencontrer des gens pour dire voilà, je voudrais acheter un petit piano s'il vous plaît, où est-ce que je peux trouver ça, un piano pour enfants. Et j'avais ça dans mon sac avec un petit carnet et j'ai commencé à écrire mes chansons vraiment pour moi, alors qu'avant je composais toujours avec d'autres, ce qui est absolument génial aussi, mais j'ai commencé à composer de manière plus autonome. Donc c'est vrai que ça a été formateur.
Donc quand est arrivée l'aventure Bye Bye Dubaï?
Quand est-ce que ça a commencé, tu veux dire?
Ouais.
Et ben au retour de ça, très exactement.
D'accord.
Très exactement, ce sont les premières chansons que j'ai faites, sont issues de ce voyage-là et donc de ce petit carnet.
Donc c'est un projet solo?
Ouais, à la base, c'était un projet solo. À la toute base, c'était aussi un projet piano-voix, sachant que je n'avais pas appris le piano et que c'est des amis qui ont été tellement gentils avec moi et qui m'ont donné des cours alors que j'étais absolument pas...
Un peu comme l'espagnol, pareil, en une semaine, paf.
Ouais, et vraiment avec l'amitié en base de gens qui ont décidé de me consacrer du temps à dire « Ok, moi je t'enseigne les bases pour que tu puisses te démerder et jouer toute seule. » Parce que j'étais très réfractaire au fait de lire sur partition, ça j'y arrivais pas du tout, je bluffais à chaque fois, je faisais semblant de lire la partition et en fait le mec me rodait en me disant « Oui, mais non, tu as juste appris par cœur, mais tu ne lis pas du tout. » J'étais complètement décalée par rapport à la partition. Donc c'est aussi, voilà, finalement le début pour moi de ces compositions-là est venu aussi avec l'envie de jouer du piano, très très fort.
D'accord. Là tu chantais en français, en anglais pardon.
J'ai commencé par chanter en français dans Bye Bye Dubaï. D'accord. Et ces titres n'ont jamais D'accord. été enregistrés, ou quelques-uns si, peut-être chez un ami il y a très très longtemps.
D'accord.
Ouais. J'ai commencé avec quelque chose que je faisais aussi des années plus tôt dans un duo avec une amie pianiste, donc comme quoi il y avait encore le piano. C'était celle qui faisait du métal avec moi avant à la guitare, qui est restée une collaboratrice pendant 10 ans. Et du coup, je faisais un peu comme avec elle, je faisais des sortes de longues logorées de prose en français, avec des sortes d'impro bizarres en langue étrangère, donc comme quoi le voyage, oui, m'intéresse, parce que j'adore improviser dans des sortes de langues que je m'invente. Peut-être le cobayen aussi, l'influence magma ici. Mm-hmm. Et à la base, c'était ça, et puis j'ai commencé à travailler avec des musiciens, et je sais que je pense que j'étais peut-être pas encore assez sûr de ce que je voulais et que eux préféraient les chansons en anglais. Et donc j'ai dit bah ok, dans ce cas si on travaille ensemble, je veux bien oublier les chansons en français. Et c'est vrai que c'est dommage.
Ouais.
Mais bon, c'est un parcours aussi, ça a été très très bien de travailler avec eux. Et...
Donc une aventure qui a duré combien d'années, Bye Bye Dubaï? Une dizaine
même? Ouais, peut-être une dizaine.
D'accord.
En tout et pour tout, ouais.
Et qui s'est achevé il y a longtemps? Est-ce que c'est vraiment achevé, l'aventure?
Oui, oui. Ouais. Oui, pour moi, elle s'est vraiment achevée. Ouais. Là, il y a récemment quelqu'un qui me demande une chanson, ça me renvoie tellement à... Ouais, elle s'est achevée il y a, je dirais, peut-être 2 ans.
D'accord.
2 ans, vraiment. Ouais.
Donc, c'est là que tu as envie de chanter, d'abord sous ta propre identité.
Oui.
Pour pas te cacher, moins te cacher.
Peut-être.
Et chanter en français.
Oui, grand besoin.
Et des choses différentes. Au niveau artistique.
Ouais. Alors, ce qui est rigolo, c'est que j'ai quand même...
Pourquoi un tel changement? Pas forcément un revirement, mais pourquoi une telle évolution?
Bah, besoin du français. Besoin de chanter dans ma langue. Et puis, peut-être que ça me permet aussi un rapport à la poésie qui est plus direct. Enfin, même si j'écris toujours de manière extrêmement cryptique. Le fait de pouvoir prendre mes carnets et vraiment de pouvoir faire des petites coupures dedans et faire mon cut-off moi-même de mes textes, de mes propres textes, sans avoir à traduire, parce que j'adore parler anglais, mais c'est vrai que je le maîtrise pas non plus totalement, donc j'ai besoin d'une relecture, j'ai besoin d'une correction, donc il y a des choses des fois qu'on des sonorités que j'aurais envie d'avoir en bouche, donc j'écris d'une certaine manière, puis on me dit ah bah non, ça c'est pas correct, donc je dois changer. Alors, tandis qu'en français, je peux vraiment mieux maîtriser la sonorité que je veux chanter. Et peut-être que j'avais aussi envie d'être comprise par mes pairs.
Bien. Avant de découvrir, enfin, si, on va découvrir d'abord le. Si tu es ce soir, c'est que tu viens présenter ton premier EP, 6 titres sous ta véritable identité, qui s'appelle La Chevauchée Électrique, donc paru le 26 mars 2021. Avant d'en parler en détail, on va écouter un premier morceau. Et Tonio.
J'ai choisi le morceau qui donne le titre, le P.
Voilà, tu vois. Ah,
magnifique.
Voilà.
Excellent choix.
Je ne pouvais pas commencer par le premier, puisque c'était déjà pris. Voilà. Mais, le morceau qu'on va écouter justement, c'est La Chevauchée Électrique, Wendy Martinez. Chevauchée électrique, un titre de Wendy Martinez, extrait de l'EP du même nom, voilà. La Chevauchée électrique.
Un univers très psychédélique, très oriental.
Mais oui.
Oui, hein.
Mais oui.
Voilà.
Oui, oui. C'est vrai.
Oui, on voyage.
Je m'en rends compte moi-même après coup.
Oui, oui.
C'était déjà un petit peu le cas sur certaines chansons de Gloria, mais là, c'est flagrant. Pas uniquement. Il n'y a pas que les clips qui le prouvent. Il n'y a, pas que la déesse Kali que l'on entend ou que l'on voit.
La danseuse Katak dans les clips. Bah oui, ouais, ouais. Voilà, j'aime plein de musique du monde. Et puis, sans doute que ça s'en ressent. Et puis, il y a des tablas, là, mais qui sont mixés très, très faiblement. Mais j'ai un ami qui m'a prêté son jeu de tabla pour cette chanson-là.
C'est pas Massoud Raonac alors.
Mais si, c'est Massoud Raonac.
D'accord, non, c'est marqué.
Tu
hein,
le connais,
marqué.
Magnifique.
Non.
Ah non, d'accord.
Bah, je le connais depuis 2-3 jours, mais sur Internet. Ouais.
Voilà, c'est lui.
Tu as participé à une de tes chansons. Ouais.
Voilà.
Oui, c'est une pointure dans la musique afghane en France, en tout cas.
Ouais, exactement.
Ah, il joue des tablas.
Ouais.
Bah oui, mais
et il chante aussi magnifiquement, il fait du chant droupad.
Ouais.
Et puis même à la base, je lui avais demandé, alors c'est terrible, parce que je lui avais demandé de chanter sur ce titre, il l'a fait magnifiquement, mais en fait ça nous propulsait tellement ailleurs qu'en fait on a gardé mes vieux chants à moi, parce que ça, finalement ça colorait vraiment tellement la chanson, on s'est dit bon, finalement c'est très beau, mm-hmm. mais voilà, ça changeait un petit peu l'esthétique qu'on avait en tête, donc ouais. on a dû malheureusement se passer de son chant Droupad voilà. qui est si beau.
Bon, tu n'es pas allé chercher en Afghanistan, il est en France depuis à peu près 40 ans, je crois.
Ouais. Ouais. Ouais, ouais, il m'a donné des cours de chant Droupad il y a des années. C'est les premiers cours de chant que j'ai pris, c'est des cours de chant Droupad, c'est génial comme technique de chant, c'est délicieux.
Donc sur cette chanson, on sent, consciemment ou inconsciemment, il y a une patte pop de Gainsbourg, hein, celle de 68 à 71, celle de Bonnie and Clyde, Jane Birkin et puis l'histoire de Melody Nelson. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression ou pas.
Je suis démasquée.
T'es démasquée ? C'était toi ?
C'était bien ça. Bah oui. Que veux-tu ? J'aime beaucoup. Non, pas à ce point.
Pas à ce point.
Non, c'était pas. Et puis même dans, par exemple, le refrain ou la mélodie de la voix, j'ai pas tant l'impression de ressembler à du Gainsbourg. Je dirais peut-être plus.
Plus sur mon aviateur, ouais.
Bah moi, plus, c'est marrant, ouais, c'est plus sur Kilomètre Zéro où il y a un type de batterie qui me faisait très envie. Et... Donc je dirais que c'est souvent la batterie en fait qui va faire penser à du Gainsbourg, la basse aussi. Après, moi, dans la voix, je pense pas avoir tellement la voix de Jane Birkin ou de Gainsbourg, mais, son phrasé.
Non, mais comme on l'entend au début,
ouais. Hein,
je t'aime et je t'aime.
Je t'aime, bah oui.
Et puis l'autre, c'est.
Je t'aime.
Non, tu dis pas la même.
Si.
Tu veux t'aimer la première fois et oui, je t'aime.
Ah, peut-être que je dis oui, je t'aime.
Tu dis oui, je t'aime. Voilà. Ah, donc ça fait penser à une chanson de.
Bah, bien sûr.
De Gainsbourg, évidemment. Voilà.
Tout à fait. Et puis dans le texte, je dois avouer que son écriture me fascine.
Ouais.
C'est sûr que j'adore comme il fait claquer les mots, comme il fait claquer le texte. Donc c'est sûr que je l'ai tellement écouté que ça m'intéresse. Il y a des X branchés au thorax. Donc est-ce que c'est un hommage à Gainsbourg ? Peut-être.
Bon, évidemment, tu nous ramènes dans les années 60-70, mais pas spécialement, parce que dans le morceau Kilomètre Zéro, ou peut-être celui qui est après, moi je me suis retrouvé dans les années 80. Hein.
Dans Écran Triste, je pense.
Oui,
ouais.
C'est ça.
Bah oui.
Ah, oui. Oui, c'est ça, oui, c'est ça.
Tout à fait.
T'avais envie de jouer ta New Wave.
Oui, parce que c'est un courant que j'aime aussi beaucoup. Et moi, j'aime danser, donc c'est vrai que c'est peut-être quelque chose de plus propice à la danse. C'est effectivement mon seul morceau dansant, peut-être, de l'EP. J'aime un peu tout, ça me fait penser, tu parles d'influence. Moi, j'ai beaucoup écouté quand j'ai fait cette EP Pierre Vassiliu, que sans doute vous connaissez, mais qui, tout au long de sa carrière, a vraiment tout expérimenté. Il a fait de la chanson française Rive Gauche. Ensuite, il a fait du psychédélique dans les années 70, complètement fou, avec des textes en prose sublimes et des chants derrière, des instrumentations complètement libres et très improvisées. Et après, il a viré années 80 avec ce côté africanisant. Il me semble qu'il a vécu au Sénégal, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas en Afrique. Mmh. Et j'aime bien, en fait, cette idée de aussi pouvoir être libre d'aller vers le style qui nous convient au moment où on écrit la chanson. Mmh. Et puis selon ce qu'on écoute, c'est sûr que ça vient influencer aussi.
Ouais. Est-ce qu'il est indiqué sur ton, je pense, sur ton site internet ou sur la page Facebook, sur le Bandcamp, le style proposé, Wendy Martinez revisite la pop et le rock 70-80.
Oui.
Donc on n'est pas...
Ouais. Oui, on n'est pas forcément plus loin, tu veux dire. On n'est pas
non,
forcément
pas
2000,
loin, mais on est comme entre 60, tu as même fin 60 et 80. Oui. Il s'est passé quelque chose musicalement.
Ouais.
Donc, t'avais l'embarras du choix plutôt que choix de l'embarras. Ouais. Enfin, je ne sais plus dans quel sens.
Ouais.
T'avais les deux.
Oui.
Ouais. Est-ce que t'as pas pu aborder tous les styles quel style tu as laissé de côté pour l'instant? Est-ce qu'il y a un style que tu as laissé de côté déjà?
Il y a des types de chansons, mais bon, non, ça va être encore vers 70. Il y a des types de chansons plus anciennes que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup écouté Barbara. J'ai beaucoup écouté Brel, j'ai beaucoup écouté Léo Ferré, et j'adore ses orchestrations classiques. Ça me rend dingue. Même sur Brel, je trouve ça fou.
Mais c'est pas pop.
Enfin, en tout cas, c'est Léo Ferré, je dirais, qui a la petite transition bien agréable de ça à la pop, et c'est génial. Rock aussi. C'est succulent, mais j'aime beaucoup des Aznavour aussi, vraiment. Il y a des orchestrations chez Aznavour qui me rendent complètement folle. Je trouverais ça extraordinaire qu'on revisite ça un jour, parfois. Ouais. Tu vois, ces grosses orchestrations à violon bien pompeuses, mais super bien écrites, avec des harmonies très pointues. Ça, je trouve ça fascinant. D'ailleurs, Gainsbourg l'a pas mal utilisé aussi, le fait d'avoir des orchestrations très écrites et des bons arrangements.
Ouais. Puis il y a aussi le côté... c'est marrant parce qu'il y a plus 20 écoutes de ça. Vraiment, il s'écoute plus rapidement. Il y a que 6 morceaux, c'est plus rapide que 10, tu vas me dire. Mais l'écouter plusieurs fois, il y a le côté années peut-être 2000 avec le côté un peu légèrement Dominica et plus Françoise Breu. Est-ce que tu vois?
Oui.
Sur le dernier morceau, je crois.
Sur le dernier.
Le dernier, vous pouvez avoir un dernier.
D'accord, ok.
Je vois l'avais... ce que je veux dire.
Je vois carrément parce que.
Tu t'éloignes des années 70-80.
Mais c'est, finalement, il y a un lien hein, parce que je sais que Dominica disait qu'il avait écouté énormément Brel et Léo Ferré quand il était jeune. Il me semble, de mémoire, qu'il a dit ça. Donc il y a aussi peut-être cette idée de tradition de la chanson française qu'on adapte à notre sauce. Bien. Ouais, j'aime beaucoup, c'est vrai, Dominica.
Allez, on va repartir. Bienvenue au club. on va repartir en chanson.
Allez.
Avec un deuxième morceau qui s'intitule Mon aviateur. On va voyager, puis après, on nous dira dans quel pays ou dans quel univers, je ne sais plus. Bref, on y va.
Bon décollage.
Mon aviateur. Wendy Martin. En espagnol, c'est mieux.
Martinez.
Martinez, si.
Ça fait autre chose ou...
Ah ouais, c'est classe.
Tu préfères parce que...
Podemos hablar en español si quieres.
Como tú quieras.
Le côté
pero así, Miguel côté... no entiende nada.
Ah, perfecto, entonces.
Excusez-moi.
Podemos decir lo que queremos.
Tonterías sobre él.
Sí, vamos.
Vite, un traducteur.
Vite.
Bon, moi ce sera en français, ce sera mon aviateur. Wendy Martinez.
Mon aviateur. Quand voleras-tu vers moi à nouveau, qu'il est long, le temps de la guerre. Thank you.
Mon aviateur, Wendy Martinez, extrait de son premier EP, 6 titres, La Chevauchée électrique, sorti le 26 mars 2021. Qui est mon aviateur? Alors c'est qui mon aviateur?
Est-ce que je dois divulguer le secret?
Non, mais t'es pas obligé.
Il se peut que ce soit peut-être Alexis. Non, mais...
T'étais pas obligé de le dire finalement là, toi.
On ne sait pas, il faut laisser.
Bah oui, voilà. Ah, bah, voilà, voilà.
C'est trop tard. Pour les gens qui ont écouté, ouais, ils savent le secret.
Voilà, les autres le découvrent et. Voilà.
Et puis ceux qui écouteront en replay, non, bah, Michel va couper.
Voilà
exactement.
Voilà.
Donc mon aviateur, bon, c'est le rêve de l'homme, hein, c'est voler.
Oui.
C'est une déclaration d'amour à Saint-Exupéry aussi. Je sais pas pourquoi je dis ça.
Alors, c'est pas Saint-Exupéry, celui qui a écrit. Comment est-ce qu'il s'appelle? Jonathan Livingston, Le Goéland. C'est deux.
Bah là, t'es,
ouais. Ouais, mais ça me dit quelque chose, mais l'auteur.
Bon. Allons-y. Tu vas chercher, là, c'est magnifique.
Voilà.
J'avais lu ce livre qui parle de goélands, hein, parce que les goélands reviennent tout le long, et il est magnifique, et c'est encore une fois un.
Richard Bach. Oui.
B-A-C-H. Voilà. Attention à lire, c'est magnifique pour les enfants comme pour les adultes. Jonathan Livingston, Le Goéland, c'est tellement beau. Et c'est l'histoire d'un goéland qui vit dans sa famille, mais qui réalise qu'il a envie d'aller peut-être plus haut, plus vite, et qui s'entraîne. Et de la même manière qu'un aviateur de l'époque pouvait s'entraîner à dépasser un peu ses limites.
D'ailleurs, Richard Bach, qui était un ancien militaire de l'armée de l'air.
Ouais, était un ancien aviateur. Donc c'est un peu toutes ces histoires d'écrivains, tu vois, c'est marrant. Mm-hmm. C'est le même style que. Si vous lisez le texte, c'est le même style que Le Petit Prince. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre du qu'est-ce qui est le plus grand chez l'homme, qu'est-ce qui nous exalte, qu'est-ce qui nous porte. Donc ouais, c'était vraiment lié à ça, et ça a été écrit, c'est une chanson qui a été écrite il y a pas mal de temps déjà, c'est une des plus anciennes dans sa composition, et elle a été écrite au moment du Bataclan, donc à ce moment où nous on vivait une sorte de guerre pour la première fois de notre vie, enfin moi en France j'avais jamais eu cette sensation de tiens, un massacre de masse, qu'est-ce que ça représente, je pense que ça nous a tous pas mal choqués, et au même moment Alexis était en train de lire pas mal de bouquins d'aviation parce qu'il est assez fan de ça. Moi petite, c'était mon premier rêve, être aviatrice, c'est le premier rêve que j'ai formulé, ça me fascinait totalement, donc j'ai eu, je pense, besoin de faire le pendant en fait de, bah, de toutes les guerres même qu'on vivait au même moment dans le monde, et de dire bon, on est peut-être pas si pourri que ça si on essaie d'imiter l'oiseau.
Tu pourrais pas habiter à Poitiers en ce moment?
Qu'est-ce qui se passe à Poitiers en ce
d'accord,
moment
derrière. C'est la mère qui a dit qu'il fallait interdire aux enfants de rêver aux avions.
Oui, pourquoi? Parce qu'elle lui a coupé les subventions à l'aérodrome, à l'aéroclub de Poitiers.
Voilà. Non, mais c'est dramatique.
Mais l'Europe Écologie, les Verts.
Oh, mais pourquoi? Qui peut dire ça?
Alors bref, oui, non, mais c'était... Voilà,
c'est une parenthèse.
C'est une parenthèse.
Ouverte par Michel.
Voilà, mais refermée aussi rapidement. Oui, c'était ça de mon aviateur, c'est aussi un petit peu, moi j'ai trouvé à travers le clip également, une histoire de l'aviation, à travers la guerre d'Espagne. Enfin, moi j'ai trouvé ça, quand tu parles d'avion, oui, ça m'a fait penser à la guerre d'Espagne, avec ces avions nazis qui bombardent, italiens qui aidaient le bon général Franco à vaincre le terrorisme, voilà.
Bah après, t'as Guernica aussi, qui a été bombardée.
Voilà, non, mais ça fait penser à ça, voilà, la Deuxième Guerre mondiale, Hiroshima, Nagasaki, le nuage... C'est un peu l'histoire de l'aviation, un peu l'histoire du monde, finalement, depuis que les gens ont envie de voler, depuis qu'ils sont arrivés à voler, plus ou moins bien, d'ailleurs.
Ouais, le pire est le meilleur.
Icar ?
Exactement. Il y a les bombes pétronucléaires, ce terme qui n'existe pas. Oui, c'est le pire et le meilleur de l'humanité, en fait, qui cohabitent. Ouais, et c'est vrai que j'étais assez fascinée au moment où j'ai réalisé le clip, j'étais tombée sur plein d'archives sur les débuts de l'aéronautique, et c'est extraordinaire, mais regardez ça, c'est fascinant. À la fois on a envie de rire parce que c'est complètement
ridicule, hein.
Délirant, il y en a qui ont des bouts de carton au bout des bras et puis qui courent encouragés par les copains, si vas-y tu y vas, clac, ils se gamellent terriblement, et puis t'as celui qui saute de la tour Eiffel où c'est un drame terrible avec une sorte de sac poubelle sur lui qui montre fièrement en disant oui, c'est mon parachute que j'ai créé, et puis
il y a des drames,
mais c'est terrible. Et puis on le voit sur la tour Eiffel avec un petit panneau disant il hésite au dernier moment, on se demande s'il va sauter, et puis il doit réfléchir à Micheline, sa femme, est-ce que je la laisse, et paf, il saute, il tombe, il se tue, mais hyper rapidement. Enfin, c'est une histoire, je trouve, et en même temps, tous ces gens-là ont permis aussi qu'il y ait des avions ensuite qui volent comme ça, et avec tous les délires, enfin tout le trop aussi. Je suis pas pour une aéronautique non plus trop abusive.
Oui, il faut pas exagérer non plus.
Voilà.
Ouais. Côté musicien, bon évidemment, vu que t'es une des trois chanteuses de Gloria, hein, ça on peut le dire, il y a rien à cacher.
Bah oui.
Donc forcément, on trouve un petit peu quelques musiciens de Gloria, hein, bon qui de Vitrola pour pas le nommer, hein, bah, il s'appelle Alexis en vrai, hein, c'est vrai.
Mais également, faut pas le dire.
Faut pas le dire.
Et on l'a dit déjà tout à l'heure.
Bah oui, mais il s'appelle Kid Vitrola quand il est DJ. Voilà. Jocelyn Varingo, batterie et clavier.
Alors, il a enregistré, il m'a fait ce grand honneur de faire les batteries pour l'enregistrement, mais c'est un autre Jocelyn, très étrangement, qui joue les chansons sur scène. C'est Jocelyn Hazard.
D'accord.
Ouais. Okay. Il y a beaucoup de Jocelyn batteurs, on a réalisé.
D'accord. Par contre, donc Alexis a fait le bassiste.
Oui.
Et moi, je trouve que. Il n'est pas pour beaucoup dans le succès de cet album-là, mais dès la première chanson, c'est simple, c'est joué simplement, mais on le retient drôlement, quoi.
Ouais.
Et pour sortir de la tête, et ben c'est pas facile.
Et ben c'est pas facile. Bah, le
même ce matin, on s'est croisés, je chantais encore ça, rien que l'intro, certains diront qu'elle est toute bête, qu'elle est toute simple. Mais alors elle reste, et ça, ça veut dire que c'est réussi, quoi.
Oh, merci.
C'est vrai que la basse a plus d'importance que la guitare, parce que la guitare, on l'entend.
Il n'y a pas de guitare,
hein, c'est
pour ça.
C'est pour ça.
C'est pour ça que tu ne te rappelles pas la guitare.
Eh ben, c'est pour ça que tu l'entends pas, Michel.
Il y a quand même une guitare, c'est un groupe de pop.
Il y a quand même. Attends, il y a quand même une guitare 12 cordes dans Kilomètre Zéro. Il y a un petit moment un peu arabisant.
Voilà.
Mais on la joue pas sur scène,
voilà.
Et c'est très dommage.
Mais bon,
se dédoubler.
La basse a son importance quand même. Hein.
Oui,
c'est peut-être très, très Gainsbourgien un peu, parce que c'est la basse qu'on entend souvent.
Oui.
Ah, celle de Gainsbourg, on l'entendait bien quand même.
Ouais, et puis dans plein d'autres, dans plein de titres de Léo Ferré aussi, il y a ce type de basse complètement fou aussi. Sur des titres plus expérimentaux qu'il a fait. J'adore, je pense une basse très anglaise, très bavarde aussi, avec plein de notes, qui est très mélodique qui crée des mélodies.
On n'a pas été bassiste des slow jokes pour rien quand même.
Que veux-tu?
Alors, par contre, il y a d'autres personnes que des musiciens de Gloria quand même.
Mais oui.
Le clavier est bien présent.
Il est très très important. Au début, j'en jouais un peu et maintenant, je l'ai tout laissé aux copines.
D'accord, à Fanny Révolier, c'est ça?
Ouais, alors au début, c'était Fanny Révolier, puis elle est partie, elle nous a quittés, elle est partie pour Bruxelles et je la comprends. Je pense que c'est hyper chouette là-bas.
D'accord.
Donc, on est très contents pour elle. Après, on a travaillé avec Cécile Wouters. Et puis il y a eu le confinement là-dessus, elle avait plein d'autres projets et le confinement a tout foutu un bazar pas possible dans ses dates qui sont toutes superposées, etc. Si bien qu'à un moment elle m'a appelé en me disant c'est compliqué, je pense qu'il y a beaucoup de musiciens qui vivaient ça au même moment et elle a choisi de se consacrer à son projet à elle et du coup je l'encourage très fort parce que c'est génial de bosser avec elle.
Un projet musical ?
Elle bossait en lien avec le piano du lac et si je dis pas de bêtises, elle va refaire du piano comme ça, mais c'est sur des fleuves français et ça s'appelle Piano Wouters, je crois. Et elle a aussi créé un autre truc récemment qui s'appelle Caravan Wouters. Et je crois qu'elle avait l'envie de faire des sortes de karaoké itinérants complètement dingues. Donc ça a l'air bien chouette. Et du coup maintenant c'est Anne-Lise Godet qui nous a rejoint et qui est une amie de longue date, donc c'est très très chouette d'avoir une amie avec moi qui a fait énormément de piano, qui m'avait même donné plein de coups de main pour l'apprendre, qui nous rejoint, c'est très très...
Donc sur scène c'est
elle.
Basse, clavier, basse, clavier, batterie.
Oui c'est ça, et juste elle qui fait tous les synthés, donc il y en a trois, on a un peu élagué, au début il y en avait cinq. Moi j'en faisais aussi un petit peu et puis on a décidé de n'avoir qu'une seule personne qui s'en occupe. Comme ça, moi, ça me laisse les bras libres.
Donc, qui dit musique, dit vidéo. On en trouve trois quand même. Hein. La première, c'était le 15 novembre 2019, c'était l'Aube, qu'on retrouvera en fin d'émission. Ça ne saurait tarder. La Chevauchée Fantastique, c'était le 6 novembre 2020.
Il l'a dit. Magnifique.
La Chevauchée Électrique.
Ça a toujours un moment.
Et Mon Aviateur, le 29 janvier 2021.
En fait, il a failli en début d'émission, il ne l'a pas fait.
Magnifique.
Mais en fin d'émission, il y est arrivé.
Voilà.
Bravo Michel, applause.
Ouais, ben. Donc trois clips, je dirais pas qu'ils se ressemblent, mais il y a la patte Wendy Martinez qu'on reconnaît facilement, quoi. Le côté pas mal de boules, enfin côté piqué, quoi, le côté 60-70, la façon de danser, voilà.
Ouais, exactement. Ouais, tout style Super 8, hein, on fait ça bien comme on peut, hein, c'est vraiment de la bidouille totale. Hein,
mais c'est réussi, parce que ça fait même l'image est fait très années 60. Quoi.
Ouais. Mmh. Ah, ouais. C'est beaucoup de travail, ça, à l'étalonnage, sur comment baisser les noirs ou les monter, ou la luminosité, chercher à reproduire vraiment cet effet-là. Donc moi, je me régale à ça. C'est quelque chose que je faisais pas avant d'essayer de monter moi-même les clips, et je me suis tellement régalée. Enfin, c'est aussi une prise de tête monstrueuse, hein. C'est une sorte d'obsession pendant 3 semaines en général, où je ne fais plus que ça, mais c'est absolument fascinant. Et là, il y en aura peut-être un autre qui viendra, j'ai très très envie. Ouais. En fait, je peux pas, à chaque fois que j'en finis un, je me dis oh, c'est quand même trop de boulot, il y en a marre. J'arrête. Et puis à chaque fois, je suis mais j'ai quand même des images dans la tête que j'aimerais.
Quel est le prochain concernant les écrans, écran triste, je sais pas, non.
Bah
non,
peut-être.
Je sais pas.
Peut-être. On va réfléchir à ça.
Pour faire passer un certain message peut-être.
Ouais, je crois qu'en fait, j'ai très très envie et besoin. Je l'ai beaucoup fait dans Bye Bye Dubaï, c'était un peu la base de beaucoup de mes chansons et de beaucoup de clips, et j'ai vraiment besoin d'en reparler, parce qu'on est tous tellement sur nos écrans, ça a complètement envahi nos vies, j'ai besoin d'en faire quelque chose, ouais.
Ouais. Bien, on va te voir. Avant de découvrir, je vous conseille la vidéo, on va écouter le morceau.
Allez.
Hein, donc c'est le 4e morceau sur le EP 6 titres, La Chevauchée électrique.
C'est ça.
Wendy Martinez, L'Aube, avec Otilibi.
Oui, c'est génial. Alors attention, dans le clip, elle n'est pas là, et c'est très dommage. Donc je pense même que je vais remettre la vidéo en ligne avec cette version-là studio. Parce qu'Otilibi, c'est une artiste fabuleuse, qui a la plus belle voix, enfin, qui a une voix extraordinaire, et qui a bien voulu m'envoyer toute une chorale à distance. C'est un plaisir que d'avoir ces chœurs derrière, ces chœurs telluriques.
Allez. Wendy Martinez, L'Aube.
J'ai assez eu mon amour de charniers au-dedans. Je veux quand ma poitrine résonne le cri des anges. J'ai assez d'assassins qui ont rougi mon ventre. Je veux en mon bassin bercer une rivière. J'en ai fini avec les mercenaires sous peau. Je réclame à grands cris des fleurs dans mon berceau. Je réclame à grands cris une poitrine pleine. Sentir entre mes seins frissonner la grande plaine. Voir le pré en jachère fleurir. Se baignant au ruisseau. Déjà mes mains picotent, on me picore la peau. Déjà mes molécules m'inoculent de l'eau, de l'eau. Comme le fait l'univers. mémoire d'espace, de résonance fossile. Des peuples à hommes volants reconstruisent leur temps. Au fronton de mon front et leurs pierres resplendissent. À l'aube, mon amour, j'aurais changé de nom. J'aurais changé de corps et retourné ma peau. Le mal devient le bien, le tombeau, le berceau. Si je peux porter devant mes organes en joyaux, alors tout sera juste, tout sera excusé. Je n'aurai enfin qu'un nom et un cœur nouveau-né. De temps pour mordre mon passé. Tout sera maintenant, tout sera pardonné. Je n'aurai plus peur de vivre, encore moins de mourir. Car je serai déjà mort avant que d'être né.
Oui, mais c'est à moi. Du coup,
oui, c'est à toi.
Eh ben voilà, on vient d'écouter l'aube, oui. Un dernier extrait pour aujourd'hui de la chevauchée électrique et non pas fantastique, Michel. Donc un extrait donc de l'EP de Wendy Martinez.
Oui, mon aviateur, c'est mon légionnaire. La chevauchée électrique, elle est fantastique.
Ah voilà.
Voilà, on a la référence qu'on peut, quoi.
Voilà.
Hein, c'est vrai.
Mon légionnaire.
Non,
il sentait bon le sable chaud.
Voilà. Mais ça, on t'a jamais dit ça, mon aviateur. Ça
non,
fait penser à
on avait
mon
jamais fait avec, le lien encore.
Voilà,
ouais.
Par rapport à Gainsbourg, tout ça.
Ouais,
donc,
ouais. Oui, oui, ça me paraît bon. Assez juste en plus.
Oui. Mm. Bon, pour la chevauchée électrique, il n'y a pas de problème là. Donc, ouais. Là, l'erreur est humaine. Bien. Eh bien, il va être l'heure de se quitter. Figurez-vous.
Et oui.
Oh.
Mais oui, Wendy Martinez. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio B.
Merci de m'avoir invité.
Rappelons que la chevauchée électrique, ton premier EP sous ta véritable identité,
véritable.
Est sorti depuis le 26 mars 2021. On peut se le procurer où ?
Eh bien, on peut le commander donc si on passe sur mon site, mon Facebook ou celui de Le Pop Club Records. Vous aurez accès à deux Bandcamp. Donc, il y a Bandcamp Wendy Martinez et le Bandcamp Pop Club Records où vous pourrez acheter donc des vinyles. Prochainement des CD, n'est-ce pas? Je devais t'en amener un, Michel, mais la livraison a pris du retard.
C'est compliqué en ce moment, c'est le confinement.
C'est ça, il y a eu un délai de livraison terrible, donc bientôt également des CD. Et puis vous pouvez écouter ça sur toutes les plateformes. Et ce soir, pour ceux qui sont intéressés, on va sortir en exclusivité une vidéo live qu'on a tournée récemment avec le collectif Shoot It, qui a bien voulu réaliser ça avec des Dream Machines, des machines de lumière qui tournent de tous côtés. Donc, restez branchés.
Bien. Et puis, les concerts, c'est pour...
Oh. Ah
oui,
bah, écoute,
c'est un gros moment, mais bon, ouais. C'est la fin, là. Donc,
il y
c'est
en
bon.
A un calé fin juillet, a priori, le 24 juillet, aux alentours de Lyon.
Ah ben voilà.
Ouais, la maison Éclusière a perçu un très joli endroit tenu par des gens fabuleux qui accueillent plein de groupes et qui se battent justement pour qu'on continue un peu à faire des concerts. Donc il y en a un. Ouh. Ouais, ouais,
voilà.
ouais.
Fallait
ouais.
y croire.
C'est vrai.
Bien. Tu salueras pour nous, Alexis, Morel, Journe. C'est Alexis Morel maintenant.
Hein. Bon, allez, ouais. Très bien, raccourci. Ouais.
Ah, raccourci. Et toute l'équipe de Gloria, elle, c'est Gloriette.
Allez, j'embrasserai toute la famille.
Voilà, mais notamment Amy qui sera avec nous le jeudi 29 avril 2021 pour parler de Midnight Cassette.
Ouais.
Tu salueras le Pop Club Records de notre ami Alexis Cassimi.
Cassimi, ouais.
Oui, t'as raison, c'est Cassimi, oui, mais là, en plus, je me l'avais dit au moins. Bref, sans oublier Nahuel de chez Punk Promotion.
Ok, d'accord.
Qui fait bien son boulot.
Ah, super. Contrairement
à d'autres chargés de promotion.
Ouais.
Bien. Ici, Tonio, bonsoir.
Michel, bonsoir.
Voilà, donc la semaine prochaine, eh bien, je l'ai appris récemment, je ne sais pas plus te dire, donc c'est une demande qui m'a été faite. Nous accueillons Raphaël Porcherot, le guitariste du groupe de Southern Rock Diesel Dust, qui a sorti un double vinyle collector just before sur le label des Arts dans l'Air à Perona.
D'accord.
C'est un des deux personnages des Arts dans l'Air.
Ok.
Voilà, qui sort un album. Mm-hmm. Donc, je me suis dit, c'est l'occasion parce que généralement le jeudi ils sont occupés, ils ont des soirées, mais il n'y a pas grand chose en ce moment. Donc ce sera l'occasion de parler musique.
Mm-hmm.
Voilà.
Ça marche.
On y parlera rock, mais pas seulement.
Ah.
Mais non, parce que c'est une salle, il y a pas mal de ils font des cafés, c'est un café-concert.
Okay.
Pas café-concert,
café-théâtre.
Café-théâtre, pardon.
Café-théâtre.
Voilà. Donc,
mais ça peut être café-concert aussi.
Ça peut être café-concert aussi. Des fois, il y a du rock. Mm-hmm. Il y a même Christian Descamps, le chanteur de Orange, qui va chanter de temps en temps, tu vois.
Oh.
Par exemple.
Ah ouais, joli.
Voilà. Bien. Et comme le dit si bien Tonio, rendez-vous la semaine prochaine sous les 90.0
de Radio B.
Wendy.
Merci beaucoup.
Tonio.
Merci à toi.
Au revoir.
Bonne soirée.
Bonne soirée à
Merci.
Tous. Salut.